Bienvenue dans le podcast Lumière sur le spectre, l'autisme révélé. Je suis Ala, psychologue.
Et je suis Mona, psychiatre.
Et on travaille toutes les deux au C3RP, une unité du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences.
On reçoit beaucoup de questions sur l'autisme sans déficience. Alors plutôt que d'y répondre nous-mêmes, on a décidé de donner la parole aux personnes concernées directement. Et du coup, on reçoit aujourd'hui Emma et Marc. Donc Emma, tu es la mère de Marc.
Bonjour.
Ravie de vous recevoir aujourd'hui et de vous poser plein de questions.
Bonjour.
Alors, moi, ma première question, c'est qu'est-ce qui vous a mis sur la piste du diagnostic, chacun d'entre vous ?
Moi étant la personne concernée, alors que je suis pourtant la personne concernée, je pense pas être la mieux placée pour avoir soupçonné l'autisme, puisque c'était la norme chez moi. Peut-être que j'ai pu me rendre compte que j'avais certaines différences par rapport à d'autres, mais ce n'était absolument pas... moi, il y avait plus, disons, l'urgence d'être un peu comme les autres, de pouvoir rattraper. Vous savez, quand on est à l'école, quand on a des enfants, et, tout est très codifié, donc il faut absolument suivre le troupeau, entre guillemets. Donc, on pense qu'à un peu cavaler pour...
Mais qu'est-ce qui t'a fait remarquer que tu étais différent des autres, hein? Quelle différence tu voyais?
Je sais pas, des perceptions, des problèmes. Moi, je me souviens quand même, comme par exemple en sixième, je voulais toujours porter le même vêtement. On en parlait, enfin, il pouvait être déchiré, sale. Enfin, je continue à porter.
Ouais.
Mes camarades trouvaient ça étrange.
D'accord.
Et voilà. Ben, ça, après, peut-être qu'il peut y avoir d'autres choses, mais ce sont plus des impressions vagues que je parviendrai pas
à décrire.
Et précisément, malheureusement, c'est plus des sensations. Peut-être que je parviens à situer de manière assez diffuse. Mais pour la piste de l'autisme, je crois que oui, voilà, ce sera bien plus intéressant de comprendre le cheminement de ma mère Emma ainsi que de mon père.
Donc Emma, à toi.
Oui, alors. Donc idéalement, il faudrait que je passe le micro à mon mari, père de Marc. Parce que en fait, c'est lui aussi qui a le premier émis cette idée. En fait, il faut savoir que son petit frère est autiste, mais autiste avec une déficience intellectuelle. Alors, a priori, aucun rapport avec Marc, il était très brillant à l'école. Mais je pense que certains comportements, au bout d'un moment, l'ont mis sur la piste. Et moi, je m'étranglais en disant « mais ça va pas », parce que moi, je pensais à Max, dont on s'occupe aussi beaucoup, qui est un peu notre quatrième fils. Donc, ça n'a juste rien à voir, parce que Max,
alors,
il a...
C'est Max, du coup.
Max, c'est mon beau-frère, c'est le petit frère de mon mari, c'est l'oncle de Marc. Et Max, il a un âge mental de 7 ans, il vit dans un foyer où il s'épanouit beaucoup. On le voit tous les mois depuis 28 ans, et il fait partie de la famille. Donc, on me dit que Marc, qui a eu un bac... mention bien internationale, qui est trilingue, je me dis, mais attends, mais c'est quoi cette histoire? Donc en fait, ça c'est intéressant. Par contre, j'ai toujours vu que Marc était un enfant un peu différent. Mais on m'a toujours dit que c'était parce que c'était l'enfant du milieu. Parce que, en plus, avec deux frères aînés, Marc était beaucoup plus rêveur.
Notre un frère aîné, puis j'ai un frère Benjamin.
Voilà. Ouais. Donc, Marc était beaucoup plus rêveur, beaucoup de charme. Il parlait de manière étonnante, tout petit. Quand il a commencé à parler, il parlait avec des couleurs. Il ne disait pas « donne-moi le crayon et on va avec la voiture ». Il disait « donne-moi le vert et on va à la jaune ». Enfin, et je trouvais ça poétique, je trouvais ça joli. On me disait « bon, ben voilà, c'est particulier ». Mais voilà, en fait... L'histoire, c'est l'histoire quand même d'une différence qu'on avait bien vue depuis tout petit, mais absolument pas avec le nom d'autisme dessus, du fait de l'histoire familiale, parce que bon, c'est un spectre, mais il y a des gens qui sont sur des positions très très différentes sur le spectre, hein, ça c'est clair.
D'accord, donc pour vous, l'idée que vous faisiez à ce moment-là de l'autisme, c'était l'autisme avec déficience et pas autre chose.
De mon beau-frère dont on est tuteur et dont on s'occupe depuis 28 ans. Donc, c'est très réel, quoi. C'est pas une vision de livre, hein, ou de documentaire. C'est une expérience. Et du coup, les points communs qu'il y avait entre Max et Marc, parce que tu en parlais tout à l'heure, c'était quoi finalement?
Je sais pas, parce que en fait, moi j'étais révoltée par cette idée. C'est. Non. Ouais, c'est mon mari qui le disait, mais.
Et à quel moment?
Quand Marc a fait une décompensation à 21 ans. Et là, c'est vrai que dans sa décompensation, Marc se met. Parler en boucle du même sujet.
D'accord.
Et mon beau-frère, Max, il parle en boucle du même sujet, mais tout le temps. Mm-hmm. Donc, c'est vrai que y avait ça. Et puis, aussi, le fait que quand il est stressé, Marc regarde en l'air.
Voilà. D'accord. Qu'est-ce qui se passe quand tu es stressé, Marc? Tu as remarqué, toi, que tu regardes en l'air comme ça?
Non. Pas forcément. Mais à vrai dire aussi, je doute énormément de moi-même également, a fortiori quand j'ai appris être autiste. Mm-hmm. Et par conséquent, je ne suis plus sûr de rien. Et ce qui est parfois. Alors, ce qui en soit peut-être une. L'approche, c'est-à-dire qu'on remet tout en question, qu'on veut tout étudier, mais en fait, qui n'est pas forcément génial non plus, parce que parfois, en fait, on a des impressions qui, en fait, sont justes, mais dont on n'a pas assez confiance, et en fait, on laisse les autres dire ce qu'ils pensent, mais peut-être qu'en fait, c'est eux qui ont raison, peut-être on ne sait pas, et donc, du coup, je ne sais plus quoi dire. Je me suis dit, oui, peut-être, ou alors il y a quelque chose, mais je ne me rends pas compte, j'en sais rien.
D'accord.
Je suis un peu dans un état de. Je ne sais pas. Voilà, je. Par exemple, on dit oui, puisque tu es autiste, est-ce qu'il y a des. Je sais pas quoi, des problèmes d'empathie ou. Ou moi, je pensais que j'étais quelqu'un curieux d'un peu de tout, mais ensuite on disait qu'en fait, non, il y avait un peu d'un trait spécifique. Il y a des choses que j'ai peut-être, au fur et à mesure, appris à plus accepter, et il y en a d'autres où je me dis, mais. Je ne sais pas, oui, effectivement, regarder ailleurs en l'air, ça, oui, moi, mais ça, quand je rêvasse, par exemple, voilà, quand je suis rêveur, mais quand je suis stressé, peut-être, je serais heureux de l'apprendre à reconnaître, si c'est vrai, effectivement. Et donc, j'ai hâte d'attendre des exemples, si jamais tu en as en tête.
Mais du coup, ce que tu es en train de dire, c'est que des fois, ton entourage, donc ta mère, reconnaît plus facilement quand tu es stressé que toi-même. Est-ce que ça serait ça que tu es en train de dire?
Mais sûrement, mais je suis stressé. Je regarde vraiment, je regarde en l'air quand je suis stressé.
Non. En fait, tu regardes toujours en haut à droite. Tes yeux partent en haut à droite.
Mais parfois, moi aussi, c'est quand j'exprime une de l'affection. Aussi, non?
Aussi.
Donc, ouais, et ça n'a rien à voir pourtant. Hein.
Ah, ouais. D'accord.
Aussi. Après, j'ai remarqué, il a toujours un petit rituel et il n'y a que lui qui l'a eu et toujours avec moi. C'est de me dire bonjour d'une certaine façon, avec un certain ton de voix et avec des yeux qui partent en l'air.
Oui,
et il a toujours fait ça, petit, et après il a toujours continué ce rituel, alors que maintenant c'est un homme adulte. Et ça, c'est particulier, quoi. Et ça a du charme, hein, mais c'est pour ça que moi, je trouvais que tout ça, c'était charmant. Je n'étais pas du tout dans un stress.
Oui, voilà, donc sur ça, n'hésite surtout pas vraiment à dire à chaque fois que cela survient. N'hésite pas à me le dire, me le faire remarquer, je le prendrai pas mal du tout. Et ça m'aidera, moi, justement, à mieux comprendre ma condition et comment ça se caractérise. Donc voilà, je ne t'inquiète pas, je ne serai pas du tout heurté.
En tous les cas, quand t'aimes bien parler un sujet qui t'intéresse, tu t'en parles tout le temps. Après, tu peux avoir une autre centre d'intérêt, mais quand tu es passionné par le sujet, t'en parles tout le temps. Mais comme. C'est très intelligent, il n'y a pas que celui-là. Mmh. En fait, c'est des phases différentes de sujets d'intérêt.
Et vous évoquiez tous les deux un épisode à 21 ans, si j'ai bien compris, où là, tu parlais, Emma, de décompensation. Qu'est-ce que tu entends par décompensation?
Ah ben là, en relisant l'histoire, je pense que en fait, Marc a compensé et qu'arrivé en troisième année d'études supérieures dans un cursus d'excellence en plus, au moment de passer le diplôme, eh bien là, tout s'est arrêté. C'était très spectaculaire et très alarmant, puisqu'il était allongé sur son lit, avec un ordinateur sur son ventre, à regarder des vidéos de perroquets, et il ne parlait plus que d'un perroquet. C'était si grave qu'on a fait... Il n'était pas chez nous, on a fait un rapatriement sanitaire, et puis comme ça s'aggravait encore plus, il a dû être hospitalisé. Donc il y a eu une entrée très brutale dans un trouble très grave, puisque c'est ce qu'on appelle, après on a appris que ça s'appelait un épisode psychotique, qu'il a fait... à cause, à mon avis, quand je le relis, du fait d'une surpression d'un diplôme très difficile à passer dans une université d'excellence à l'étranger.
D'accord. Et du coup, est-ce que, enfin, en termes de diagnostic d'autisme, est-ce que ça a eu un rôle, cet épisode-là ?
Bah, on est parti dans une errance en psychiatrie, parce que en fait, Marc, il a un peu fait le tour du manuel de psychiatrie. En posant
c'était
beaucoup.
Le tour du DSM.
Ouais.
D'accord. Comment ça s'est passé, ce tour du DSM, comme tu le décris, Emma, pour toi, Marc?
C'était un tel... C'était un tel enfer, à dire. Mais heureusement que... Heureusement que les, fin, que les proches et les soignants étaient là. Finalement, mais... Au départ, donc je pense, tu arrêtes-moi un moment si je me trompe, mais je crois qu'au départ, au tout début, quand j'étais aux urgences, ils envisageaient une schizophrénie. Mm-hmm. Finalement, ensuite, le psychiatre ensuite qui a commencé à s'occuper de moi assez vite, s'est dit que sûrement non. Enfin, toujours dit que j'avais au début là, un traitement à dose minime de risperidone. Je crois, ou Risperdal. Alors moi c'est drôle parce que moi au début je reconnaissais tout à fait ces noms-là parce que avec mon oncle Max,
oui,
on leur donnait toujours ces médicaments matin et soir, quand ils venaient on donnait Alprazolam, Artane, Risperidone, Zyprexa, enfin je sais plus, enfin ouais, vraiment tout. Et donc moi au début j'étais terrifié parce que je me dis mais si je vais prendre ces médicaments, je vais devenir comme Max. Et enfin pauvre Max, enfin lui ça se voit vraiment sur son visage, hein, qu'il a, il a... Voilà, ouais, les traits sont marqués. Et moi, par sorte de raccourci terrifié, je me suis dit, mais je vais commencer à avoir le même visage et puis avoir le... et puis voilà, être aussi atteint que lui, finalement, du fait de ses médicaments. Donc je me suis dit, mais c'est terrible. Heureusement, j'ai pris quand même, parce que je me suis dit, allez, c'est important... Je me suis dit, finalement, moi, je me suis... j'ai accepté, finalement, depuis le parcours de soins. Je me suis dit, d'abord, pas tant pour moi, mais pour la collectivité. Enfin, je le devais un peu pour la collectivité, parce que je sentais bien aussi que, voilà, moi, je, même malgré mon... le fait que je sois, voilà, passé trop à côté de la réalité de la vie quotidienne, je pensais que ça, c'était bien trop difficile et, pour l'entourage. Donc je devais à la collectivité de suivre, finalement, d'accepter de prendre ce qu'on m'invitait à suivre comme traitement. Et finalement, c'était bien. Moi, j'étais très coopératif. Donc on avait parlé, finalement, assez vite. Donc c'était personnalité obsessionnelle compulsive. Assez vite, donc, je crois, j'ai plus pris hein, ce risperidone qui... C'est vrai que je me souviens plus de tout ce que j'ai pu prendre à la suite. Il y avait des noms différents. Je crois qu'il y avait un... Est-ce que j'avais pris du Xerocal à un moment ?
Xerocal.
Ah oui, parce qu'il y a Xerocal et Xerocal.
Non,
ah, okay,
c'est
le
même.
Okay.
Xerocal, c'est la version canadienne, je crois, ou américaine.
Ah, d'accord.
C'est Xerocal.
Xerocal, ouais. La Ketiapine, un
c'est
truc
la
comme
même
ça.
Chose, hein.
D'accord.
C'est la même.
J'aurais dû apporter les...
En fait, t'as eu Zyprexa, non ?
Peut-être, oui. Ouais.
Elle me fait un petit tour aussi.
Ouais.
Oui,
avec
voilà.
Une longue liste de médicaments, quand même.
Ouais. Oh. Mais enfin, non, mais c'était. Pardon, jamais en même temps.
D'accord.
C'était voilà. Toujours qu'un seul.
Ouais. D'accord. Donc, t'as essayé plusieurs
parfois changeait. Et je sais plus ce qu'il y avait après. Personnalité obsessionnelle compulsive. Ce qui est sûr que j'avais des tocs.
T'avais des tocs?
Oui, c'est ça, que c'était à ce moment-là, parce que moi, je crois que c'était à partir de l'hospitalisation que je commençais à me laver très souvent les mains.
Mais ce qui a déclenché, entre autres, dans la décompensation, moi, je ne l'avais pas vu, mais en fait, il se lavait les mains tout le temps. Et j'avais remarqué, alors qu'il était en phase de décompensation, qu'il avait des rougeurs aux mains, mais je n'avais pas vu. Et c'est au cours de l'hospitalisation, on a fait une entrevue en famille, que la psychiatre qui suivait Marc a dit qu'il avait des tocs de propreté. Et effectivement, il se lavait, paraît-il, les mains 40 à 50 fois par jour. Mais paradoxalement, il se lavait les mains énormément, mais il pouvait avoir de l'incurie pour aller à la douche.
Exactement.
Il se rasait plus. Il avait l'air d'un... Il est arrivé à l'hôpital, il avait vraiment l'air d'un clochard, quoi. Au sens... Une barbe pas taillée, quoi. Complètement hirsute. Et puis, les habits, il n'arrivait pas à les changer. Donc, c'est pour ça que je voyais qu'il y avait des... rouge, oh, mais j'aurais jamais pu dire que c'était un toc de propreté, puisqu'on arrive à peine à l'encourager à aller prendre un bain de temps en temps. Ce que moi j'ai retenu, c'est qu'en fait, quand il a donc dû être hospitalisé en urgence, effectivement, il y a eu un diagnostic de schizophrénie, confirmé par le chef de pôle, mais ensuite, la psychiatre qui le suivait a dit non, moi je, devant nous, parce que c'était bien, on était associés avec son père, et qui a dit je ne pose pas ce diagnostic parce que Marc a recollé très, très vite avec la réalité une fois qu'il a eu l'antipsychotique qu'il a accepté de prendre malgré la trace familiale. Il a tout, sur des faiblement dosés, il a tout de suite recollé. Donc elle a dit je ne pose pas ce diagnostic. Je pose un diagnostic de personnalité obsessionnelle compulsive avec des TOC, et vous avez eu un épisode, vous n'en aurez plus et on va vous soigner. D'accord. Et puis après, ça a évolué parce qu'en fait, Marc retombait quand même avait vraiment des tendances un peu la psychose revenait, les gens me regardent dans la rue, et puis l'incapacité à sortir de la maison. Et donc, la psychiatre qui le suivait, après, a posé un diagnostic de schizoïdie. Et là, Marc était furieux. A dit, il est hors de question que je sois associée à un schizophrène. Je me souviens, il a dit, c'est des gens avec un couteau dans les dents. Et donc, je refuse les soins et j'arrête ce traitement. Donc, autant vous dire qu'on était en grande forme, mon mari et moi. L'intérêt, c'est qu'on avait quand même une bonne relation. Et donc, il a dit, il y avait une bonne alliance avec le psychiatre. Et Marc nous dit, venez avec moi, on va aller ensemble au rendez-vous et je vais expliquer à la psychiatre que j'arrête. Bon, c'était quand même au bout de deux ans et demi, il avait fait plusieurs molécules, toujours faiblement dosées. Et donc, voilà, il a dit, je vais arrêter. Et la chose que a dite la psychiatre, c'est est-ce que vous autorisez vos parents à m'appeler si jamais votre état se détériore? Elle dit oui. Je me suis aventurée en disant, mais j'espère qu'ils ne vont pas exagérer. Et en fait, ça s'est bien passé. Parce que Marc a eu aussi beaucoup de soins formidables. Ergothérapie, psychomotricité, psychodrame, remédiation cognitive. Et moi, je suis très reconnaissante à tous ces soins qu'a mis en place la psychiatre, sans du tout comprendre que c'était de l'autisme. Elle a même dit que c'était pas possible. Donc ça nous a fait perdre beaucoup de temps.
Et parce que quoi?
Je pense qu'elle a, je sais pas, elle a été remarquable pour traiter l'épisode psychotique, mais elle a dit, qu'est-ce qu'elle t'avait dit? Ah non, c'est pas possible car vous avez de l'empathie.
Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure, justement.
Moi d'ailleurs, là j'habite en colocation, on est très nombreux, à la fin on a fait un peu un bilan un peu de coloc où on remerciait les apports de chacun, et à mon égard, plus d'un avait évoqué mon empathie extrême, mais au sens amélioratif, et qui s'est beaucoup touché. Donc voilà, quand moi j'entendais ça, je me dis, je suis quoi alors? Je suis empathique ou je suis pas empathique? J'aimerais comprendre. Ou alors peut-être qu'il y a différents pans d'empathie. On a certains pour lesquels je suis très très bon, pour d'autres où je suis malheureusement imperméable.
Et moi je confirme, Marc est celui qui a une empathie incroyable. Quand on fête Noël, préparer les cadeaux, c'est toujours Marc la bonne idée pour le bon membre de la famille qui va absolument parfaitement. Et donc moi, je comprends pas cette définition que on dit, ah ben t'es autiste, ça veut dire t'es dans ton monde. C'est très paradoxal, parce que c'est vrai que Marc, quand il était dans son monde avec son perroquet, son obsession, qui était vraiment une obsession, mais pour autant, il a de l'empathie. Donc moi, j'avoue que je suis un peu perdue sur ce spectre.
Et du coup, qu'est-ce qui vous a mis sur la piste de l'autisme? Parce que la psychiatre disait que non, qu'il y avait de l'empathie. Donc qu'est-ce qui vous a fait penser à l'autisme?
Bien qu'elle reconnaissait qu'elle n'était pas spécialiste elle-même.
D'accord.
Donc c'était une confession humble et bienvenue et qui nous encourageait et donc qui nous a finalement quand même référé au centre expert de Créteil.
C'était quel centre expert? C'était celui de la schizophrénie? Celui de l'autisme?
Non.
De l'autisme. Oui, mais tu étais désinscrit.
Oh là, c'est terrible.
Parce que t'as dit non, mais elle a dit que c'était pas ça. Donc...
Moi j'étais très content. Hein. Moi j'étais toujours dans cet esprit, le moins il y avait de choses, le mieux c'était. Donc j'allais de toute façon saisir au vol dès que.
Et après le centre expert a disparu, et après il y a eu le Covid. Donc en fait, il a décompensé en août 2015. Il avait un rendez-vous en février 2016 avec le fait qu'il soit désinscrit. Non, mais elle a dit que je l'avais pas. Le fait. Ensuite, qu'il a disparu ce centre et qu'ensuite il y a eu le Covid, bah, le diagnostic, on l'a eu en juillet 2021.
Ouais, je m'en suis mordu les doigts d'ailleurs. C'est pour ça que.
Mais qu'est-ce qui fait que tu es retourné du coup quand même?
Parce que moi, bien que je me sois désinscrit, au départ on était quand même allé. J'étais allé ensuite de mon propre chef en disant non. J'avais quand même. Parce que vous savez, il y a aussi des conflits intérieurs en soi. Il y a une partie de soi qui veut absolument pas en parler, il y a une autre partie qui dit si, allez, maintenant il faut y aller parce que c'est. C'est comme ça qu'on avancera, etc. Donc, enfin, j'étais pas non plus monolithique dans mes intentions et mes idées et mon ressenti sur les choses. Et donc, je sais que par deux fois, j'y allais vraiment de mon propre chef. J'allais prendre le métro comme ça, paf, faire toute la ligne, et puis j'allais tout marcher jusqu'au pavillon en question, parce que quand on les avait au téléphone, bah, ça ne rendait pas vraiment. Et j'allais dans le bâtiment en question et j'attendais. Donc, j'avais quand même des moments de vrais. Prise voilà, de responsabilité, et j'y allais de mon propre chef. Hein. C'était pas papa-maman qui me disait. Donc il y avait quand même une fois, on avait vu le médecin, la question, tous les trois, finalement j'avais pas donné suite. Finalement j'y suis retourné par deux fois, franchement, en demandant que ça puisse reprendre un rendez-vous. Pendant ce temps-là, l'institution périclitait un peu. Et finalement, enfin. Et surtout, effectivement, avec le Covid. Ouais.
C'était insensé, quoi. Ouais. Une fois que tu avais décidé de l'attraper, l'institution a disparu. Donc, on a réussi à conserver le contact. Mais il y avait le Covid. Donc, on l'a fait avec les mêmes personnes, mais on crée leur propre structure. Mais donc, on est passé de 2016 à 2021. Mais ce qui a, je pense, encouragé Marc à le faire, c'est qu'il était quand même assez coincé. Il avait un moment, il avait quitté le soin en psychiatrie. Et nous, avec mon mari, on s'est dit, il était coincé quand même. Il avait une activité professionnelle, mais pas vraiment, il était pas bien. Et on se disait, mais il y a cette piste-là. Ce serait intéressant que tu ailles voir parce que tu trouveras des outils. Donc l'idée, pas pour le plaisir de s'ajouter encore une couche de problèmes, mais de le présenter en termes d'outils qu'on va pouvoir te donner et dont tu pourras te saisir pour envisager ton nouveau parcours professionnel. C'est comme ça qu'on l'a argumenté avec mon mari, mais j'en suis convaincue. Et nous, on disait de plus en plus que c'était ça, parce que alors nous, on lisait plein de bouquins. On allait sur plein de sites, on disait « Ah mais oui, regarde là !» Donc nous, on avait plusieurs longueurs d'avance après. Et on voyait des petits parallèles, par exemple, entre Marc et Max. Bon, son Max a un handicap intellectuel, donc c'est très flagrant. Il va parler toujours du même sujet en boucle, mais Marc, il va en parler. Par exemple, bon, il y a eu le perroquet, puis après, pendant très longtemps, il y a toujours le psychologue Peterson, qui connaît très bien, et il va nous en parler énormément. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va dire, s'il y a un nouvel interlocuteur qui arrive, il va dire la même chose de la même façon, quel que soit l'interlocuteur, et il va répéter exactement la même chose. C'est comme un script qui répète. Et ça, mon beau-frère le fait, avec son handicap de 7 ans d'âge mental. Mais hop, j'ai vu que Marc, et ça j'ai remarqué qu'il le faisait. Donc par exemple, il a quelque chose à me dire, il me le dit d'une certaine façon. Il était chez nous à la maison. Après, son petit frère arrive, il va le répéter de la même façon. Après, son père arrive, il va le répéter de la même façon. Et si moi, c'est moi qui suis rentrée le plus tôt de mon travail, eh bien moi, je vais avoir 3 fois exactement le même récit dit de la même façon sur le même sujet. Et souvent, c'est intéressant parce que Marc a beaucoup de curiosité intellectuelle. Donc, c'est intéressant, c'est très informé. Mais ce qui me frappe, c'est que c'est dit de la même façon, quel que soit l'interlocuteur.
Est-ce que tu avais remarqué ça, Marc ? Que tu disais la même chose à chaque fois, de la même façon ?
Ça me parle, en tout cas. Maintenant que maman le formule ainsi, ouais, je suis enclin à reconnaître cette, cette description. Et après, je me demande aussi si... Par exemple, aussi, c'était aussi une période où je faisais très peu de choses. Donc il y avait aussi peu de choses à partager. Et en fait, pour retrouver une estime de la relation avec les gens, on doit avoir des choses à partager. Et quand on fait pas beaucoup de choses à partager, mais sur quelque chose qu'on a partagé, on estime avoir acquis une certaine compétence, des choses partagées, et ben on est d'autant plus enclin à partager, et ça a l'air assez restreint, mais c'est pour ça que je pense, alors, je me trompe peut-être, mais j'ai pas l'impression d'être comme ça tout le temps, ces temps-ci, enfin depuis un an peut-être, enfin depuis que je fais beaucoup plus de choses, voilà, parce que je pense, et que d'ailleurs c'est bien, d'ailleurs, quand je rentre, par exemple, on travaille, etc., enfin il y a des... Il y a beaucoup de choses amusantes à raconter, enfin je pense que c'est plus varié, non tu penses pas vraiment?
Mais non, mais tu dis des choses très différentes, mais c'est vrai que tu vas raconter de la même façon aux différents interlocuteurs. Tu as raison de dire que les sujets sont très variés, puisque tu fais beaucoup de choses maintenant, mais tu as quand même cette façon de raconter une anecdote ou de raconter quelque chose de la même façon.
Et du coup, au terme de tout ça, finalement, tu as eu un diagnostic d'autisme.
Oui, d'ailleurs, c'était intéressant parce que, oui, donc je suis allé voir la psychologue, neuropsychologue spécialisée dans le disque. Au début, un entretien en tête à tête qui a dû durer entre 1h30 et 2h. D'ailleurs, c'était assez parfois. Ça te décontenançait un peu parfois, hein, ces questions qui partaient un peu, mais c'était super intéressant, très interactif. Et en fin de compte, quand moi je osais lui poser la question, alors du coup vous pensez, oui ou non. D'ailleurs, pas le hasard, mais disons, les choses ont fait que d'ailleurs mes parents enchaînaient presque, c'était la même journée quasiment, je crois, hein, qu'ensuite le psychologue allait avoir l'entretien avec mes parents seulement, sans moi. Il aurait pu y avoir beaucoup de jours espacés, etc. Mais finalement, non, ça s'est vraiment fait dans l'après-midi, alors que j'étais venu le matin. Et au départ, donc à l'issue de mon entretien, du premier entretien entre elle et moi-même, je me posais la question, du coup, vous pensez que c'était, etc. Et je ne sais pas si c'était juste pour moi, mais je pense quand même qu'elle était plutôt sincère. Elle me dit, non, je pense que c'est plus le TDA. C'est plus ça.
Tu peux redire.
Donc oui, le trouble déficit attentionnel qui m'avait déjà été diagnostiqué lorsque j'étais au lycée. Et où j'avais pris d'ailleurs un médicament, le Concerta, qui m'aidait donc justement dans mes études, à la fois dans le lycée et mes études supérieures, à tenir le coup. Et que j'avais malheureusement arrêté suite avec un psychanalyste. Mais...
Mais il vaut mieux en rire, parce que parfois on a envie d'en pleurer.
En tout cas, moi au début, je pense qu'il y a un côté de moi qui était ravi, je sais plus. Je ne sais plus à vrai dire.
Je me souviens, il m'a dit que c'était plus la peine que je prenne un médicament.
Sur
le diagnostic de TSA, la psychologue.
Ah oui, t'étais ravi parce que tu nous as dit au téléphone, c'est bon. Je suis pas CTDA et pour moi ça va pas être le femme. Hein.
Donc, ah oui, il fait sens. Du coup, tu faisais le lien avec Max qui était en foyer d'accueil médicalisé, ouais. Ce qu'on appelle un FAM.
Ouais,
c'est
ça.
Mais voilà, une chose qu'on avait oublié d'évoquer, c'est que je me souviens, je sais plus si c'était peu de temps après ma sortie de l'hôpital, à partir de septembre 2015, donc j'avais pas du tout encore mon diagnostic de l'autisme, papa le soupçonnait déjà un peu de son côté, mais vu que papa a toujours été... c'est toujours maman qui sera occupée de notre santé, hein, jusqu'ici, et papa, jamais vraiment. Enfin, tu sais, maman, arrête-moi si je me trompe, mais que dire, s'il y avait une chose grave, au pire, on allait à la pharmacie, mais j'avais plus...
C'est assez classique dans les voilà. Couples, là.
Exactement, et donc, finalement, vraiment, ce paradoxe, c'est en disant que, le paradoxe, ça fait que celui qui aurait eu vu juste en premier, finalement, c'était papa, cette fois. C'est donc là, comme quoi, hein, il faut savoir rester humble. Ça vaut pour tout et on est tous concernés. Mais en tout cas, même avant ça, au début, évidemment, moi j'étais, comment dire en anglais, très touchy, donc très sensible sur le moindre de ce qu'on faisait. Le parallèle avec Max me heurtait, je ne pouvais le tolérer. Et malheureusement, certains membres de ma famille, au moins maman, je ne sais plus si les autres proches, mais commençaient à m'appeler Max. Alors qu'ils ne se trompaient pas avant.
Oui.
Jamais. À la limite, on m'appelait du prénom d'un de mes frères. Oui. Et vice versa, d'ailleurs, pareil, mes autres frères, on les appelait par mon prénom. Donc ça pouvait souvent arriver, hein, depuis qu'on était tout petit, c'était un problème. Mais cette fois, maintenant, on commençait à m'appeler par le prénom de mon oncle. Et ça, je trouvais ça insupportable, et mes proches étaient d'ailleurs terriblement gênés.
Donc on t'appelait Max, au lieu de t'appeler Marc.
On m'appelait Max, mais alors je veux bien que les réponses se ressemblent, mais on se trompait, mais je tiens quand même à rappeler, on se trompait jamais avant.
Ouais, d'accord. Okay.
Donc, il y avait quelque chose, quoi.
C'est vrai, c'est qu'on se trompait parce que... Tout d'un coup, on avait vu les ressemblances, comme je vous ai dit, malgré la différence fondamentale en termes d'intelligence, mais vraiment fondamentale. Tout d'un coup, on a vu, et ces lapsus étaient arrivés, et c'était très dur pour moi de le faire aussi. Je voyais bien que ça choquait profondément Marc. Mais c'est un lapsus, et ça fait parler notre inconscient, et ouais, c'était dur.
Ouais. On revient juste au diagnostic, du coup, tu disais que tu étais super content quand la psycho t'a dit « Oh non, je pense pas que c'est...
» Exactement.
Mais après, elle a vu
au téléphone. Nous, on est arrivés, c'était à l'autre bout de Paris. « Ouais, papa, maman, je ne suis pas. » Bon, parce que toujours, évidemment, le lien avec son oncle, que je comprends. Parce qu'en plus, on n'a jamais dit, faut le savoir, de mon beau-frère qu'il était handicapé mental. Ce qu'on a toujours dit dans la famille, Max est autiste. Mmh. On a toujours dit ça. On n'a jamais dit il est handicapé mental. Mmh. Et donc, du coup, on arrive et on avait tout préparé parce qu'on savait qu'on allait nous poser des questions sur la petite enfance. On avait lu beaucoup de livres sur l'autisme de haut niveau. Et donc, j'avais des photos, j'avais des bulletins scolaires. Enfin bon, on avait bien travaillé sur l'anamnèse, moi et moi. Donc on était bardés. Et là, on a vraiment... on a shooté dans le mille à chaque fois, quoi. Et effectivement, je pense que Marc compense tellement bien que même pour une spécialiste, c'était pas clair. Et c'est parce qu'on a dit ce qui se passait. Donc entre autres, la petite photo de Marc en train de regarder le tambour de la machine à laver tourner quand il marchait pas encore. Mais il était très habile, il était à quatre pattes, il se mettait debout. Et à l'époque, on avait une machine à laver, vous savez, le tambour apparent. Ouais. Et il était complètement fasciné de voir le tambour, le linge qui tournait. Donc, fasciné par le cercle. Une photo aussi dans son lit, dans son petit bébé, fasciné par le pendule qui tourne au-dessus pour distraire, mais vraiment scotché, quoi, pas comme les autres. Et puis aussi, qu'est-ce qui a fait la différence
Donc du coup, on est d'accord. Enfin, mon impression n'était pas faussée. Sincèrement, le psychologue, au départ, à la fin de mon entretien, au début du vôtre, n'envisageait pas sérieusement, enfin comme la piste la plus plausible,
oui.
L'autisme, on est d'accord.
Tu nous as appelé triomphant. Et donc nous, après on a parlé du fait qu'il parlait en couleur, du fait qu'il y a eu quand même des problèmes à l'école, donc il était... Bon, moi il se trouve que j'ai travaillé longtemps dans la presse jeunesse éducative, donc tout ce qui était éducation petit, ça m'intéressait, c'était mon métier, donc j'avais des outils pour compenser, je savais où aller, mais il a fait l'orthophonie, il a vu des psychologues enfants, enfin il y a quand même tout un parcours de l'enfance, donc on a dit aussi tout ça. Et aussi le fait qu'un jour j'avais demandé à... histoire de dire, ah ben il peut pas être autiste parce qu'il regarde dans les yeux. Et un jour j'ai demandé à Marc, mais... quand tu me regardes où? Et il m'a dit, bah, je te regarde là.
sur les pommettes.
Ouais, donc j'ai dit, bah, non, il ne regarde pas dans les yeux, Marc. Et puis aussi, les petits rituels qu'il fait toujours avec moi pour me saluer. Donc voilà, le cercle était important, les retards de langage, le parler en couleur.
Donc tu sais que je t'avais dit à un moment que je ne te regardais pas dans les yeux, mais au niveau des pommettes. C'est possible, mais je doute quand même que ce soit quelque chose de une pratique systématique de ma part, peut-être plus courante que la moyenne, certainement, mais il n'empêche, tu te souviens de l'épisode très très récent dont je t'avais parlé, donc je pense que vous avez aussi peut-être parlé, c'était dans le métro où il y a un type, malheureusement, enfin, psychopathologique, qui tout à coup, effectivement, fixé dans le métro, on dit je vais vous surveiller, moi, je vais m'occuper de vous, etc. Je sais pas si je vous avais raconté cet épisode. Enfin, agresser, le type, malheureusement, était. Enfin, malheureusement, donc. Et c'est justement, et je pense, parce que je regarde trop les gens dans les yeux autour. Si
ah oui, mais ça c'est intéressant, du coup. Est-ce que ça signifierait que ton regard est juste pas habituel, finalement? Donc ça peut être soit fixé de trop, soit fixé ailleurs.
C'est ce qu'on s'est dit quand il m'a apporté cet épisode qui était quand même très grave, hein, parce qu'il s'est fait agresser. Mm. Violemment, heureusement qu'il y avait des gens dans le métro pour le secourir. Et on en rediscutait. Et c'est vrai que Paul dit, bah, en fait, comme je rêve, enfin, je suis un peu rêveur, il promène son regard un peu partout.
Donc, et le regard se croise.
Ouais.
D'accord, ok.
D'accord,
okay. C'est pour ça qu'aussi j'ai du mal à me dire que je me dis, ce n'est pas possible que je ne regarde jamais les gens dans les yeux. J'aurais du mal à y croire. Je veux bien que peut-être je le fais moins que les autres et que donc ça caractérise l'autiste. Ok. Mais que je le fasse jamais, c'est quand même... Enfin, je sais, peut-être il est un peu fort. Mais je trompe peut-être.
Et du coup, comment vous avez réagi tous les deux à cette annonce diagnostique? Parce qu'au terme de ce bilan, il y a quand même une annonce diagnostique.
Absolument, bonne question. Alors, moi, il y a deux émotions principales. À la fois, c'est ouf et merde. Et une part de soulagement.
Les deux, c'était pour toi, du coup
hein? Ouais, je pense. Ouais. C'est ouf, ça y est, c'est enfin confirmé. Enfin,
ouais.
Enfin et aussi, mais merde, bon, bah, on y est.
Ouais.
Qui n'est pas... Ouais. Qui n'est finalement pas que de la déception, mais c'est aussi, bon... Savez-vous, je me suis regardé dans la glace et... Où je dis, bon, bah, ça y est, on y est. Voilà, donc c'était pas... Et donc c'était pas un merde de désespoir non plus, c'était aussi un oh, merde, vas-y donc. Une part aussi d'étonnement aussi.
Oui. Ouais. Et pour toi et moi, ça s'est passé comment?
Ah bah pour moi, c'était soulagement. Yes! Enfin, on va avoir les bons outils pour que Marc avance sur son chemin. Parce que je sais, parce que évidemment, j'ai beaucoup travaillé ce que proposent les centres. Autisme au niveau, enfin sans déficience, et donc je savais qu'il y avait plein d'outils, et donc yes, ça y est, il va redémarrer. Donc nous, c'était moi, c'était plutôt victoire, mais je voyais bien que Marc souffrait beaucoup et qu'il nous disait d'un ton détaché, ah donc je suis autiste. Genre c'est quelqu'un qui m'a raconté cette histoire très très difficile pour lui de s'approprier, je le répète, je le martèle, du fait du contexte familial.
Et ça a changé quoi, du coup, dans votre relation, dans votre vie, tous les deux?
Je sais pas, moi au départ, j'avais peut-être un peu peur qu'il y ait une sorte de d'interaction formatée, pas de personnes passées, enfin qui sont pas forcément de l'ordre pour quelqu'un d'autisme. Moi je sais que quand je vois quelqu'un que... Alors moi, on a eu là, dans le cadre de mon métier, on a eu une formation. Je sais pas quoi, une formatrice, j'ai senti que... Et qui, d'ailleurs, était spécialisée un peu en com. Parfois, elle avait des réponses toutes faites. Par exemple, quand moi, elle parlait de je sais plus quoi, enfin, c'était en rapport avec... Écoute, moi, je posais une question, peut-être un peu liminaire, c'est vrai. Et tout de suite, elle a dit, je ne suis pas scientifique. Je n'ai pas la réponse à cette question. Enfin, j'avais pas l'impression que c'était, voilà, ta réponse un peu formatée. Moi, j'avais peut-être aussi un peu peur de dire, bon, d'accord, bah, vu que là, cette personne est autiste, des situations, il faut répondre avec cette forme-là, et que ça manque peut-être un peu de spontanéité, et qu'on dit les choses telles qu'on ressent, telles qu'elles viennent, etc. Mais bon, au-delà de ça, honnêtement, pour moi, ce qui était important, c'était quand même de... Le plus important, c'était, voilà, de continuer à entretenir le lien, montrer qu'on... voilà, qu'il y avait l'amour familial prédominait par-dessus tout, et que ça n'allait pas mettre une barrière d'incompréhension incompressible entre mes proches et moi-même. Je sais pas ce que t'en penses.
T'avais l'impression que ça pouvait changer ton fonctionnement, le fait d'avoir ce diagnostic, quoi. Ta mère dit que c'est plus une ouverture de droit, finalement, de possibilités en termes de soins. Toi, tu avais vraiment l'impression qu'on te changeait un peu ton fonctionnement en te donnant ce diagnostic.
Ouais, c'est possible. Mais encore aujourd'hui, je pense que j'ai peut-être un peu du mal à vivre avec. Il y a une partie de moi qui aimerait beaucoup tout connaître sur l'autisme et exactement en quoi ça se traduit en moi, pour savoir exactement quoi faire pour finalement optimiser au mieux mon potentiel, si finalement ça un peu mon objectif. Et il y a d'autres moments où... j'ai mal à vivre avec, où je me dis non, mais de toute façon, enfin, que je l'ai ou non, ça change rien. Alors, encore ce matin même, en me levant, bon, alors, c'est vrai que j'ai pas assez dormi et tout, mais je me suis dit, de toute façon, quoi qu'on ait, on est, ça change rien, on est dans la même arène. De toute façon, voilà, dans la même arène de vie. Je sais pas très bien si, vous savez, c'est un peu comme dans la tirade d'Hamlet, en disant, oui, il est à travers les, il parle des slings and arrows of time. Enfin, donc, est-ce que je dois, tout laisser, est-ce que je dois me battre sans cesse contre un flot qui ne s'arrêtera jamais, ou est-ce que je dois me laisser un peu emporter? Je sais pas trop quelle approche. Bon, je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais j'espère que ça évoquera quelque chose.
Toi, c'est un questionnement que tu as, ou c'est où tu as déjà pris un peu ta décision sur est-ce que tu te laisses emporter, est-ce que tu te bats contre?
C'est ça, c'est un peu le problème, parce qu'en disant si c'est quelque chose de structurel, il y a des choses sur lesquelles il serait déraisonnable de
se battre.
Ouais, de se battre. Ouais. Et d'un autre côté, cette peur de dire. Ça se trouve très vite, moi je vais juste me déployer un large éventail d'excuses pour ne pas tenter l'aventure ici et là, qui serait fondamentale dans mon développement. Oui. C'est encore très vague, hein, je suis désolé.
C'est un questionnement là pour le moment.
C'est vrai que c'est un peu un questionnement, ouais.
Qu'est-ce que tu as fait du coup pour mieux te comprendre? Qu'est-ce que tu as pu mettre en place pour le moment?
Pour le moment, effectivement, j'ai appris à mieux m'accepter, un peu en disant pour parfois, parce que on disait beaucoup aussi que voilà, que je compense beaucoup, et que c'est normal, que ça suscite beaucoup d'efforts, et moi, malheureusement, je dis mais je me rends pas compte, et j'aimerais bien mieux me rendre compte pour pouvoir mieux me complimenter, parce qu'effectivement, parfois, il y a cette haine de soi-même, parfois, on se déteste, etc. Et c'est important d'apprendre à reconnaître ses propres mérites, pour ça aide dans la réconciliation avec soi-même.
Qu'est-ce qui t'aide pour ça, du coup?
Quand j'arrive pas à faire quelque chose, et que je m'en veux, et bien, je me dis que si je m'en veux moins, parce que voilà, j'ai aussi des conditions. Voilà, ouais, c'est déjà un pas.
Et de ton côté, Emma, du coup?
Moi, je vois bien que pour Marc, c'est un combat, qu'il ne veut pas être autiste. Et donc, Moi, j'ai peur qu'il pousse à nouveau trop loin et qu'il puisse avoir une autre décompensation. Mais en même temps, je comprends qu'avec les bons outils, il peut aussi avancer. Voilà où j'en suis. Donc, c'est qu'il se protège, mais qu'il avance avec une bonne armure. Quoi. Ouais, je pense que c'est ça qui serait bien, qu'il avance dans sa vie avec une bonne armure. Mais souvent, j'entends qu'il veut être tout le temps comme les autres. Et je pense que c'est pour ça, c'était sa stratégie. En plus, avec un grand frère et un petit frère, une bonne ambiance familiale et beaucoup d'amis, il a toujours copié, et a une super stratégie de compensation, mais qu'il me semble qu'il y a un moment où il faut aussi s'accepter, quoi. Ce qui n'empêche pas d'avancer. Donc, j'ai l'impression que Marc, il est un peu de... Il faut que ça se voit pas, il faut que je le sois pas. Voilà. Donc, je crois que le chemin, c'est celui-là qui est à emprunter.
Ouais, merci vraiment pour ton avis.
Et du coup, quel conseil vous pourriez donner à quelqu'un qui apprend que son enfant son fils ou sa fille est autiste?
Je pense pas.
Emma.
Bah, plutôt.
Oui.
Il faut la psychoéducation.
Non, si tu peux expliquer ce que c'est que la
psychoéducation. C'est-à-dire apprendre ce que c'est que le trouble autistique, avec comme c'est un spectre, il y a beaucoup de choses différentes. Et ce qui est intéressant quand on fait l'éducation, la psychoéducation, c'est qu'on apprend à repérer son proche, par exemple. Moi, quand j'ai fait ce cours, je me suis dit, tiens, Marc, lui, il a ça, mais il n'a pas ça. Et donc, ça permet de mettre à distance, parce qu'on met de la raison pour ne pas se laisser embarquer par l'émotion. C'est très important. Parce que quand on est dans une relation proche d'une mère avec son enfant, y a beaucoup d'émotions, et tant mieux. Et c'est important. Mais que ça soit la bonne émotion, pas l'émotion de l'angoisse ou de la colère parce qu'on est frustré, ou du repli. Donc, se renseigner beaucoup. Et derrière, pour apprendre la marche à suivre. Parce que quand on a une personne très proche, enfin son enfant, qui est autiste, il y a certaines choses qu'on ne dit pas et il y a certaines attitudes qu'il ne faut pas avoir parce que ça aggrave. Il n'a pas le cerveau tout à fait fait comme le nôtre. Donc, autant le savoir pour ajuster une bonne communication.
Et toi, Marc, quel conseil tu donnerais à des proches de personnes autistes ?
Exactement, c'est oui de se moi je dirais ça de s'informer au maximum de ce en quoi ça consiste pour voir effectivement discerner entre tout simplement le structurel du fonctionnement de l'appareil excellent des émotions, parce que parfois effectivement un autiste peut réagir à telle situation, l'autre peut le recevoir par exemple, je sais pas, comme une provocation ou un foutage de gueule, je sais pas, alors que pas du tout. Donc ça, effectivement, ça permettrait de libérer d'un gros poids non nécessaire de situations conflictuelles.
Donc ça serait connaître un petit peu plus le spectre de l'autisme, hein, ce que tu disais, Emma, c'est que c'est un spectre, des symptômes très variables. Et toi, tu dis aussi, Marc, justement d'apprendre à ajuster la communication.
Oui, c'est vrai.
À ces symptômes-là.
Par exemple, Marc, quand il a de l'anxiété, comme on a, c'est typique du spectre, et il y a des gens, je sais, j'ai vu dans la psychoéducation, l'anxiété fait qu'ils anticipent énormément, et alors que Marc, c'est l'inverse. L'anxiété fait qu'il évite. Et donc, il va faire les choses à la dernière minute. Et ça, quand on a un événement familial, ça vous rend dingue, quoi, au sens où, allez, t'es prêt, etc. Donc, je sais qu'il va le faire à la dernière minute. Donc, maintenant, ça me calme. Par exemple, on avait pris le rendez-vous le 5 juillet, ici, au mois d'avril. Il y a quelques jours, je lui ai envoyé un SMS, puisque maintenant, Marc vit en colocation, on n'est plus ensemble. Donc, j'ai envoyé un SMS, je lui ai dit, est-ce que tu te souviens que, est-ce que t'es libre? Eh ben non, il n'avait pas noté, et donc il a réorganisé. avec son collègue de lui laisser la matinée alors qu'on avait pris le rendez-vous au mois d'avril. Donc, avant, j'aurais été très énervée. Et là, j'ai pris la bonne chose. J'ai dit, écoute, voilà. Bientôt, on va au mariage d'une nièce qu'on aime beaucoup. J'ai envoyé un SMS, on se rappelle, donc comme le mariage, voilà comment on s'habille, voilà ce qu'il faut mettre. Avant, je me serais dit, mais pourquoi Alors, j'ai envoyé aussi la même chose à son petit frère, parce qu'il est aussi, le petit frère est très distrait. Mais je sais que j'ai envoyé en avance parce que je sais qu'il va falloir quand même qu'on se prépare, et je pense qu'il va venir à la dernière minute et qu'il faudra trouver la cravate et la chemise blanche et les chaussures.
Du coup, en dehors du mariage de la nièce, est-ce qu'il y a d'autres projets? Quels sont vos projets d'avenir tous les deux? Chacun séparément, et puis ouais. Et les projets de famille.
De mon côté, parfois, moi je le perçois effectivement un peu comme une guerre. C'est oui, une sorte de lutte presque eschatologique pour ça convient, et un peu ma sorte de quête du Graal, c'est d'arriver à trouver ce principe, hein, cette idée qui me convainc et me persuade tant à chaque fois qui me permette de toujours avoir cet élan d'avancer un peu plus loin, plus haut, plus vite, enfin, vous savez, un peu comme le slogan, la neige olympique. En dépit de toutes les difficultés qui pourraient s'abattre sur moi. Mais du coup, après aussi, je m'en veux terriblement quand j'ai l'impression de faire preuve de mauvaise volonté.
Donc tu cherches ton projet, finalement, tu cherches ton rêve.
Ouais. J'ai quelques petites idées. Moi, évidemment, j'aimerais beaucoup avoir un métier où je gagne bien ma vie, où la maîtrise intellectuelle est valorisée, fonder une famille, me marier, fonder une famille, et que je puisse aussi m'épanouir en termes de sportivement, artistiquement, dans les connaissances aussi. Alors, bien que j'ai aussi une certaine dyspraxie, ça j'étais soulagé de l'apprendre aussi, j'ai une légère dyspraxie, mais au moins que j'apprenne aussi à faire quelque chose de mes mains, au moins cette question de...
En dyspraxie, tu peux juste expliquer en deux secondes.
Ah oui, pardon, c'est un trouble des mouvements fins.
Oui.
C'est ça où, par exemple, je ne sais pas très bien, ça me fait aussi, j'ai des difficultés d'organisation, je pense qu'ils sont un peu liés aussi.
Ouais.
Et ça, c'était un grand soulagement aussi de l'apprendre.
Donc trouver vraiment le domaine où tu peux t'épanouir en tenant compte de tes particularités, ça serait ça?
C'est ce qui serait plus juste, effectivement.
Non, je traduis en mode
c'est vrai,
médical.
Effectivement.
Ouais, ça serait ça. Ok. Ouais. Et Emma, de ton côté?
Moi, c'est que Marc vit sa vie, hein. Déjà, il a 28 ans. Moi, je serais enchantée d'avoir une belle fille et des petits-enfants. Hein. Donc, moi, je suis all for it. Et après, qu'il avance sur son chemin. Ce qui m'attriste, c'est que je trouve que parfois, il est... Je vais employer un grand mot, mais il est un peu trop dans la haine de soi. Il ne veut pas être qui il est. Et je pense que ce n'est pas ça le bon chemin. Et donc, moi, j'entends toujours ce vocabulaire guerrier. Sky is the limit. Mais non, on a chacun nos limitations. Alors, quand on est autiste, certainement, elles sont plus présentes, mais il faut en prendre soin. Donc voilà, moi, ça m'attriste de sentir que le risque de se brûler les ailes...
En n'ayant pas trouvé les limites.
En n'ayant pas accepté, trouvé ses limites, je pense que... il a d'énormes qualités et qu'on peut mener une très belle vie avec tout ça.
Okay. C'est un beau mot de fin.
C'est très bien, parfait. Merci à tous les deux d'être venus pour ce podcast.
Merci beaucoup.
Et c'était Lumière sur le spectre, l'autisme révélé. On se retrouve dans 2 semaines.
Merci à Marc et Emma, et à bientôt dans 2 semaines.
votre écoute. On aimerait remercier aussi toutes les personnes qui participent de près ou de loin à ce podcast. Bruno et Morissette pour tous les moyens techniques, Sophia, Max et nos autres co-animateurs, et surtout nos invités qui nous ouvrent la porte de leur intimité à chaque épisode. Notre espoir, c'est que ces partages d'expériences participent à enrichir des réflexions individuelles et sociétales, et pourquoi pas à vous soutenir dans votre parcours personnel. On espère pouvoir tenir un rythme de 2 épisodes par mois. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou de votre expérience sur notre compte Insta, C3RP, Réhab Psychosocial. À bientôt.